L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est vraiment sur du long terme. Il faut pas abandonner au moindre obstacle. Il faut être capable d'aller au-delà de nos frustrations et de défaites, et de pas se décourager facilement. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est la data qui est roi. Il faut vraiment se nourrir de ça. Plus on a de data, plus on a d'armes pour pouvoir avancer de façon constructive. Quand on est entouré de personnes qui sont extrêmement ambitieux et stimulées, eh bien, ça nous stimule naturellement. Et nous aussi, on veut vouloir être ambitieux et penser beaucoup plus grand qu'on ne le penserait. Que tu sois une femme ou que tu sois jeune, quand t'as un projet, quand t'as une boîte qui fonctionne et auquel tu crois, tu délivres et au final les résultats ils vont aller au-dessus des premières considérations. Le risque, il n'y a pas mort d'homme, en tant qu'il est calculé, faut y aller. Si on n'y va pas, on ne fait rien.
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Julianne, qui est la cofondatrice de Anya. On aura l'occasion d'en discuter. Salut Julie, comment tu vas ?
Salut François, ça va très bien et toi ?
Très très bien, je suis très heureux de te recevoir. Je pense qu'on va pouvoir discuter de pas mal de sujets ensemble. Donc comme je le disais, tu es la cofondatrice de Anya. Tu as été dans les 30 Under 30 Europe en 2019 et tu as également fait un TEDx à Prague, pareil, en 2020 ou 2019. Ma première question que je pose dans chaque épisode, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
Donc moi, je suis d'origine franco-chinoise, donc mes parents sont chinois et ils viennent du Yunnan. Et en fait, mon père est doctorant. Et dans les années 80, François Mitterrand avait octroyé une bourse d'études pour certains doctorants chinois pour attirer les cerveaux chinois en France. Et mon père faisait partie des doctorants à être sélectionnés. Donc il est arrivé en 87 à Paris et un an plus tard, il a pu faire venir ma mère. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé. À la base, c'est pour les études de mon père, qui est un lettré, et parce qu'il devait faire son doctorat à Paris et qu'il ne connaissait absolument pas la langue, il nous interdisait de parler le chinois à la maison. Donc j'ai appris le chinois que sur le tard, et ça a été compliqué au début, hein, je vais pas te le cacher. Mon père m'expliquait que quand il est arrivé à Paris, il connaissait personne, il avait que 18 francs dans sa poche, et il a dû se construire tout seul, et ma mère aussi. Donc quand ils sont arrivés, alors que en Chine ils étaient plutôt aisés, ils sont repartis à zéro à Paris, et on est parti de rien, voilà. Donc voilà, donc c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Mes parents, ils n'avaient pas grand-chose financièrement, mais ils avaient des grandes valeurs qu'ils m'ont inculquées, et je pense que ça, c'est important. Mon père, lui, est un philosophe confucianiste, et je sais pas si tu connais, t'es un peu familier avec les valeurs confucéennes, donc c'est quelque chose qui est très important pour lui aussi, les valeurs de la famille. Bon, il y a quand même beaucoup plus de principes confucéens qui sont abordés, on va dire le culte des ancêtres, le respect des aînés, le respect des semblables, la piété filiale, l'harmonie sociale dans la société, dans les rapports avec les humains. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai repris dans ma société actuelle, Anya. Tu sais, par exemple, dans Confucius, il y a un livre qui est très important qui s'appelle Le Traité des Rites et qui expliquait que les rites constituaient le socle nécessaire pour préserver toute société harmonieuse dans les rapports humains. Qu'est-ce que c'est le rite? Le rite, c'est présenter de soi-même une forme respectueuse de ce que l'on est. Et donc par là même, on incite au respect parce que on est dans des gestes codifiés et on s'efforce de le faire. Et dans l'autre sens, c'est une marque de respect puisqu'on est dans l'offrande, dans la révérence. Et donc de là même se crée entre l'acteur du rite et le destinataire du rite un rapport de respect et d'harmonie qui permet de préserver cet équilibre social. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'on reprend dans la cérémonie du thé, qui est au final, quand on comprend l'origine de la cérémonie du thé, ce n'est pas que des gestes esthétiques, c'est bien plus profond. C'est très influencé de toute la philosophie asiatique qu'il y a derrière. Et ça, mon père l'a beaucoup inculqué. Et c'est quelque chose que j'applique au quotidien, à la fois dans mes relations personnelles, mais également dans mes affaires. Donc, j'ai effectivement eu une famille financièrement modeste, on va dire ça comme ça, mais qui a été culturellement et intellectuellement extrêmement riche. Et ça, ça a été une véritable force. Alors, et si un des points par rapport à mon père qui est important, c'est aussi vraiment le langage et la force des langues. Mon père est confucéen et il a dédié sa vie à l'écriture en chinois, parce qu'il écrit en chinois maintenant. Et j'ai vu qu'il a commencé à perdre un peu son français. Il est actuellement à Paris, là, il me rend visite. Et la semaine dernière, je lui ai présenté un ami à moi, qui est quelqu'un d'intellectuellement très profond. Donc je me suis dit que c'était très intéressant qu'ils se rencontrent tous les deux, qu'il y aurait une conversation très riche. Et mon père s'est senti très frustré parce que comme le français n'est pas sa langue maternelle, eh bien il devait être capable de véhiculer sa pensée, mais comme il n'avait pas le vocabulaire nécessaire, eh bien il était obligé de la simplifier. Et là, ça a été très frappant. Et je me rends compte, au final, ça m'a beaucoup rappelé le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein, qui disait que les limites de mon langage sont les limites de mon univers. À partir du moment où tu n'as pas les mots nécessaires pour traduire ta pensée, eh bien, tu dois la simplifier. Ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, je pense que c'est très important. Et c'est aussi pour ça que quand je suis partie en Chine, j'ai vraiment pris le temps d'apprendre et d'approfondir le chinois. Parce que quand on parle en anglais ou quand on parle à des interlocuteurs dont ce n'est pas la langue maternelle et s'ils ne sont pas fluent, eh bien c'est une barrière. Ça reste une barrière et quand on est dans la négociation, quand on veut vendre un projet, quand on veut convaincre des investisseurs, des clients ou des fournisseurs, ben c'est avant tout des rapports humains. Donc il y a évidemment le côté chiffre qui va rentrer en jeu, mais il y a aussi le côté est-ce que je peux te faire confiance, est-ce que je crois au projet, et ça se véhicule par l'émotion, par beaucoup de choses. Et si on a une première barrière qui est celle de la langue, eh bien l'émotion va moins passer. Donc et puis d'ailleurs je pense entre un podcast vidéo et un podcast audio, il y aura une barrière en plus qui va venir avec l'audio, parce qu'on voit pas la personne et on voit pas l'émotion qu'il y a derrière. Et par extension, entre une réunion Teams et une réunion en face à face, c'est aussi très différent.
Ça n'a pas le même impact.
Absolument.
Exactement.
Et le langage s'en est un aussi. Mais...
Donc, t'es parti en Chine à quel âge?
Je suis partie à 25 ans, ouais.
À 25 ans, ok. Ouais. Donc finalement, assez tardivement, entre guillemets.
Oui, effectivement. Bah, en fait, je me destinais initialement à une carrière d'avocat. C'était pour mes parents la voie de la sécurité. Et je leur avais promis que c'est ce que je deviendrais. Donc c'est assez intéressant de voir comment la vie peut nous mener. Et puis c'est la même chose dans le business. On arrive à une idée initiale et au final, par itération, c'est jamais l'idée initiale qui va nous faire, qui va être l'idée finale. On doit suivre le marché, on voit, on doit s'adapter à ça. Et c'est pareil dans la vie. Hein. Initialement, je devais être avocate. Et je me suis rendu compte quand j'ai dans un stage chez un avocat que j'étais pas du tout passionnée par ce métier. Et au départ, je me sentais presque coupable de pas ressentir cette passion par rapport à mes parents et puis par rapport à ce que je m'ai dit, par rapport à ce que je pensais vouloir être. On se dit tout le temps qu'on doit être passionné parce qu'on par le travail et qu'on se réalise dans le travail et que on trouve un fulfillment dans l'épanouissement professionnel qui permet de nous réaliser nous-mêmes. Moi, je l'avais pas du tout. Donc déjà, c'était un premier indicateur. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter à ce niveau-là. Et ce qui a vraiment été le déclic, c'était cet après-midi-là où on a eu un rendez-vous avec un client qu'on accompagnait dans une opération de M&A. Et là, je me suis rendu compte que j'étais du mauvais côté de la table. Et qu'au final, le métier d'avocat est évidemment un métier qui est très intéressant, extrêmement stimulant intellectuellement. Mais je me retrouvais pas dedans. Ça reste avant tout un métier de conseiller. Et moi, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est être entrepreneur et monter ma boîte et évidemment m'entourer des meilleurs experts autour de moi pour prendre les bonnes décisions. Mais c'était que je voulais créer des choses. Voilà.
En même temps, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que on nous demande assez tôt d'avoir une vocation, tu vois, de quel métier tu veux faire plus tard. C'est généralement la question qu'on pose le plus quand on est enfant, adolescent, etc.
Oui.
Alors qu'en fait, le meilleur moyen de savoir quelle est notre vocation, c'est de tester.
Oui.
Et ce que tu me dis là, c'est qu'en fait, tu as testé ce métier-là, tu t'es rendu compte que c'était pas fait pour toi.
Absolument.
Et en fait, ça t'a mené vers d'autres trajectoires, en fait. Donc c'est hyper intéressant.
Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de savoir s'écouter, parce qu'au final, à mesure où on évolue et on grandit, nos aspirations sont différentes, nos envies sont différentes également. Peut-être que quand je serai maman, ou peut-être un peu plus tard, j'aurai envie de revenir dans l'avocature et d'exercer un métier d'avocat. Mais aujourd'hui, dans la phase où je suis, c'était pas ce que je voulais faire. Mmh. Et je pense que même, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on me demande très tôt quelle va être notre vocation. Mais ce que je voulais faire quand j'étais toute petite a beaucoup changé de ce que je voulais faire quand j'avais 20 ans et qui va forcément changer par la suite également. On évolue, puis à mesure où on grandit, on est confronté à d'autres expériences, à des rencontres qui vont nous nourrir et qui vont nous donner d'autres directions également. Donc je pense que c'est important de s'écouter.
Ouais, je pense qu'il y a plusieurs vies dans une même vie, entre guillemets.
Oui.
Parce qu'effectivement, entre nos aspirations à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, ne sont pas du tout les mêmes, voire même d'une année à une autre.
Je ne pense pas que quand tu étais petit, tu voulais être un podcasteur. Qu'est-ce que
non,
tu
généralement,
voulais?
C'est astronaute, pompier.
Astronaute, pompier, c'est drôle. Tu vois, je me souviens très bien quand j'étais en maternelle, c'était quoi avant le CP? Comment on appelle ça?
La maternelle, ouais.
Chez les grands, c'est ça. Chez les petits, chez les moyens, chez les grands.
Oui.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, chez les grands de la maternelle, je me souviens, on devait dessiner quel devait être notre métier plus tard. Et quand j'étais petite, j'avais une fascination pour les voitures. Moi, je dis, j'adore conduire. Et donc, je dis, je vais être chauffeur de taxi. J'ai passé ma vie à conduire. Bon, évidemment, quand t'as 5 ans, tu ne réfléchis pas plus loin que ça. Mais en tout cas, je voulais être chauffeur de taxi, ce qui n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui.
Donc, pour revenir à tes études, donc du coup, tu fais des études de droit, dans le droit. Comment est-ce que tu vis ces études? Et effectivement, quand tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, à quel moment tu switches vers quelque chose de différent?
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, au final, t'as fait du droit alors que t'aurais peut-être dû faire une école de commerce ou d'autres choses. Puisque tu vas pas être avocate, ça n'a servi à rien. Bah non, au contraire. Déjà, j'ai fait du droit des affaires, donc ça m'a donné les armes nécessaires pour comprendre en tout cas ce milieu-là d'un point de vue juridique qui est très intéressant. Et au final, que ce soit moi qui ai fait du droit des affaires ou quelqu'un qui a fait une école de commerce ou quelqu'un qui a fait une autre type d'école, au final, ce qu'on apprend, c'est assez intéressant. Même le droit, il change perpétuellement. Il y a toujours des nouvelles lois sur les lois de finances et les lois par comment on régit les entreprises, les entrepreneurs, le commerce, l'information, tout est différent. Donc, au final, ce qu'on a appris à un instant T, il va être obsolète au bout de quelques années parce que les lois changent, l'environnement change. Donc, au final, les écoles, elles nous apprennent pas forcément à apprendre bête et méchant des lois ou des choses, ou même en école de commerce. Elles nous apprennent à réfléchir et à être intelligent et à comprendre les choses et comment s'adapter à notre écosystème. Donc c'est pas une perte de temps. J'ai été formée à devenir avocat plus tard, mais c'est quelque chose que je peux appliquer dans le monde de l'entreprise. Donc moi, ce que je voulais, c'est que je voulais être entrepreneur, mais je savais pas quoi. Donc j'ai eu une approche assez méthodique. J'ai rencontré pas mal de personnes dans le monde du private equity à Paris et je leur ai posé le plus de questions possibles pour avoir des informations sur le marché, sur quelles sont les tendances actuelles, quelles sont les entreprises dans lesquelles les fonds d'investissement investissent le plus, les tendances de marché. Et j'ai eu plusieurs réponses différentes, mais la réponse unanime, ça a été, écoute Julie, t'as un atout que d'autres n'ont pas, c'est que tu as la double culture franco-chinoise. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises européennes et américaines qui tentent d'attraper le marché chinois, mais ils n'arrivent pas à y parvenir. Et donc, ce serait intelligent de monter une boîte en Chine qui arrive à se développer, Et donc, tu pourras ensuite contacter les entreprises qui souhaitent se développer par croissance externe. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Je pense que ça a un peu changé avec le Covid. Mais avant le Covid, j'ai rencontré pas mal de dirigeants de toute taille. Hein, et quand tu regardes tous ces dirigeants, que ce soit européens ou américains, les cinq choses auxquelles ils pensent en se réveillant le matin, tu as souvent deux choses très communes. Comment atteindre le marché chinois et comment atteindre les nouvelles générations. Bon, avec le Covid, on parle un peu moins du marché chinois parce qu'il s'est beaucoup refermé. Mais avant le Covid, c'était vraiment ces grandes préoccupations. Donc aujourd'hui, beaucoup de ChatGPT, hein, IA, effectivement. Mais donc voilà, c'est pour ça que je suis partie en Chine et je suis rentrée dans une boutique d'affaires qui faisait des conseils financiers justement pour conseiller les entreprises étrangères sur les investissements en Chine. Et donc je m'occupais des études de marché et des financials. Et c'est là qu'on avait notamment un client qui s'intéressait au tourisme chinois. Et là où j'avais toutes les datas en main et toutes les cartes de visite en main des plus grands tour opérateurs chinois et des compagnies aériennes chinoises. Et j'ai vu le potentiel de marché et donc j'ai monté mon tour opérateur à Pékin.
Voilà. Première aventure entrepreneuriale.
Première aventure entrepreneuriale, exactement.
Combien de temps ça
dure? C'est sans fin. C'est sans fin l'aventure entrepreneuriale, mais celle-là, elle a duré 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est... t'as forcément dû entendre ça. Souvent, des entrepreneurs font cette allusion de dire un entrepreneur, c'est sauter d'une falaise et construire le parachute pendant que tu tombes. Bah, je suis moins dans cette approche-là, je dois t'avouer. Mmh. Moi, je pense qu'effectivement, on tombe et il y a un risque qui est inhérent à l'entrepreneuriat et à tout risque que tu prends dans la vie en général. Il faut l'accepter. L'échec fait partie de ça et le risque fait partie de ça. Moi, je suis pas dans cette pratique-là. J'ai toujours un parachute de côté. Enfin, quand je saute, je fais ce qu'on appelle des risques calculés. C'est-à-dire qu'avant de sauter, j'ai quand même fait mon due diligence. J'ai quand même étudié le marché. J'ai quand même vu le potentiel qu'il y a avec. Je me suis entouré de la bonne équipe. Là, de sauter sans rien, c'est pour ça que je trouve ça un peu simpliste de dire ça.
C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Hein. Tu sais, on a reçu une centaine d'entrepreneurs sur Serial.
Oui.
Et effectivement, c'est très cliché de dire qu'il faut se lancer dans le vide. Sans parachute, etc. Moi, je suis pas du tout de cette team-là, entre guillemets.
c'est une référence que beaucoup de gens font.
C'est
que
très cliché entrepreneur américain aussi. Et en fait, on se rend compte que même les très grands entrepreneurs américains ont toujours plus ou moins calculé le niveau de risque.
Bien sûr.
Et ont effectivement fait des grosses études de marché, se sont très bien entourés. Enfin. Non, tu sautes pas d'une falaise comme ça.
Non, clairement non. Mais c'est intéressant que tu parles des Américains parce que justement les Américains et les Chinois d'ailleurs parce que je connais pas mal la Chine et je trouve que c'est peut-être un problème un peu français. Et les Français ont une aversion du risque qui est quand même beaucoup plus grande qu'on a chez les Américains ou chez les Chinois. Et ça se voit dans leurs actions, dans les entreprises et puis même quand tu regardes même j'ai trouvé ça assez amusant. Quand tu regardes la terminologie de certains mots, tu vois, aux États-Unis, on dit venture capital, donc capital de l'aventure, et en français, on dit capital risque. Donc, une fois, ça m'a venu, rien que ça, tu te rends compte de la différence de mentalité. Ouais. On voit ça comme une aventure, on voit ça comme un risque. Il y a une aversion qui est viscérale chez les Français, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit dédramatiser. Il y a vraiment en France et que ce qu'on doit l'expliquer à l'école, le risque, il n'y a pas mort d'homme en tout cas, et tant qu'il est calculé, il faut y aller en fait. En tout cas, si on n'y va pas, on ne fait rien.
Bien sûr.
Et si on n'y va pas, eh bien on n'avance pas. D'ailleurs, l'échec fait partie des choses. Je crois que c'est même Elon Musk qui disait if you're not failing, it means that you're not innovative enough. Si tu n'as pas échoué, c'est que t'étais pas du tout innovant en fait. Donc ça, c'est intéressant si tu veux. Tu peux être innovant et dans le progrès, l'échec va faire partie de ton chemin. Et il faut l'accepter, parce que sinon, tu n'avances pas. Donc, je pense que ça, c'est important.
Je suis complètement aligné avec ça. Qu'est-ce que tu fais après cette première aventure entrepreneuriale?
Alors là, donc on s'est développé, on a été une cinquantaine de personnes, et puis on a été une partie a été cédée à un groupe chinois, une autre partie à un groupe français. Donc j'ai dirigé toute l'Asie de Caravelle Pro Vacances, qui est un groupe français dans le tour operating, où j'ai jusqu'à décembre 2019 ou 2020, juste avant le Covid. Donc non, je suis très contente de ça.
Tu pars au bon moment. C'est vrai.
Ouais, effectivement. Non effectivement. D'ailleurs, il y a même des internes de Caramel qui me disaient espèce de chinoise, t'es pas, tu savais ça depuis le début, comme par hasard, t'es partie au pic et tu disais.
Mais de toute façon, c'est purement aléatoire, mais c'est une question de hein? timing, effectivement.
Oui.
Sur cette expérience, justement, chez Caravelle Promo Vacances, à ce moment-là, donc. Pour contextualiser, t'es quand même assez jeune, même si t'es toujours jeune aujourd'hui, évidemment. Mais t'es jeune, t'as un poste de direction assez important. C'est d'ailleurs ça qui t'amène à être sorti Under 30 Europe en 2019. C'était quoi l'impact de ce job dans ton mindset et ce qui a donné la suite aussi de ton aventure, finalement?
Alors, j'étais la plus jeune directrice à 28 ans d'un groupe de 1200 personnes qui générait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 650, on s'en fout. Et j'étais effectivement la plus jeune directrice dans ce secteur à gérer un groupe aussi grand. Donc, ça a été un gros challenge, je dois t'avouer, puisque au final, tous les autres directeurs de Caravelle avaient entre 15 ans et 20 ans de plus que moi. C'était quand même il faut le dire, hein, très, assez masculin. Et il fallait que, même si j'avais le marché chinois, même si j'avais fait mes preuves, il fallait que je les refasse aussi parce que ils me voyaient comme la jeune femme qui n'avait pas suffisamment fait ses armes parce qu'elle était toute jeune et donc il fallait que je me prouve d'autant plus. Je sais que ça a été parfois difficile, ouais.
T'as été jugée de par ton âge et ton genre.
Oui, absolument, ouais.
Comment est-ce que t'as vécu ça?
Ça a été difficile, je dois t'avouer. Mais ça fait partie du jeu, donc je pense que ça fait à un moment donné, il faut juste pas se démonter, que tu sois une femme ou que tu sois jeune, à un moment donné, quand t'as un projet, quand t'as une boîte qui fonctionne et auquel tu crois, eh bien tu délivres et au final les résultats ils vont aller au-dessus des premières considérations, parce qu'au final c'est un premier préjugé, mais les préjugés ils sont faits pour être sautés. À partir du moment où tu délivres, les gens ils ont plus rien à dire.
Tu penses que ça a transformé ton mindset, qu'il y a eu un avant et un après Caravelle?
Oui, complètement. Parce qu'au final, on était dans un contexte très start-up où beaucoup plus. Qui m'a manqué aussi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de remonter une autre boîte où tout est un peu l'espèce de chaos organisé où on veut avoir toutes les affaires mais on dort quasiment pas, mais c'est ça aussi notre grand drive. Et ensuite on est dans un grand groupe où on est plus de 1000 personnes, où il y a énormément de process, où il faut passer par 10 000 validations avant d'avancer sur quelque chose. On est beaucoup moins agile, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont en jeu, donc ça se comprend aussi. Mais ça a donné une structure clairement qui m'a nourri et qui me sert aujourd'hui dans la deuxième boîte. Donc c'est évidemment un passage qui m'a construit, et Alain de Mondonça, le PDG qui a été un grand mentor dessus et qui l'est toujours aujourd'hui, a été vraiment d'une grande aide. Je pense que c'est très important pour les entrepreneurs de savoir bien s'entourer, à la fois de bien s'entourer dans son équipe, mais aussi par les mentors et l'entourage. L'entrepreneur, ok, c'est son idée, mais il faut pas penser qu'on a la science infuse. Il faut aussi apprendre des expériences des autres, de notre secteur, mais aussi en dehors de notre secteur, parce que c'est là qu'on peut penser en dehors de la boîte, comme disaient les Américains, et c'est là qu'on peut avoir des idées qui sont innovantes et parfois à contre-courant et qui peuvent faire sens. Il y a beaucoup de choses transversales qu'on peut appliquer et que j'ai appris d'autres secteurs, et je me nourris de ça. De toute façon, au final, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est la data qui est roi, c'est l'information qui est roi. Donc il faut vraiment se nourrir de ça, nourrir de nos propres expériences, nourrir des expériences des autres, nourrir de la lecture, de beaucoup de choses. Et plus on a de data, plus on a de balles, de billes, d'armes pour pouvoir avancer de façon constructive. Voilà. Et je pense que les mentors, les gens qui nous entourent, ils ont beaucoup de perspectives et d'expériences que nous, on n'a pas. Et donc, plus on se nourrit ça, plus on a une vision beaucoup plus claire de ce qu'on veut faire.
Cette expérience, elle t'amène à faire partie des 30 Under 30 Europe.
Moi aussi d'ailleurs, j'ai vu.
Exactement. Alors pas Europe. Europe, c'est voilà. C'est... Comment est-ce que alors quand tu reçois la nouvelle, dans quel état d'esprit t'es ? Est-ce que tu t'y attendais ? Est-ce que potentiellement ça t'a aussi amené à rencontrer des nouvelles personnes, tu vois ?
Ah oui, alors j'étais très étonnée, j'étais très, je m'attendais pas et mais j'étais très 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 heureuse de ce mail parce que c'est bien sûr, on fait pas ça pour ça, mais le fait d'avoir une reconnaissance, c'est une reconnaissance du travail qu'on a fourni, du travail que nos équipes ont fourni. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant. Donc c'est bien évidemment, c'est j'étais émue de le recevoir, surtout je l'avais pas demandé, et ça a été un joli tremplin. Je sais pas si toi tu as fait des belles rencontres.
Carrément.
Mais j'ai fait de très belles rencontres avec avec d'autres entrepreneurs du classement Europe. Je connais moins le classement France malheureusement parce que je crois que c'est très séparé. Mais parce que nous c'était l'équipe US qui a choisi. J'ai rencontré Benjamin Dupéis, qui est maintenant qui fait toute la partie CFO de notre nouvelle boîte, qui est un ancien d'Harvard, qui est maintenant chez McKinsey à New York, spécialisé en montage financier. Donc c'était la personne idéale pour m'aider dans ma prochaine boîte. Donc effectivement, ça a été à la fois une belle reconnaissance pour notre équipe et à la fois ça a été une belle ouverture pour un vivier de talents qui ont notre âge, de milieux très différents, de pays différents, puisque comme nous on était Europe, on avait rencontré les gens du monde entier avec des backgrounds différents, mais avec tous cette même ambition et ce même drive de vouloir avoir un impact positif dans la société avec leurs projets, avec leurs boîtes. Donc ça, c'est très stimulant.
Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est un Forbes, le classement 30 under 30, c'est un vrai accélérateur, je trouve, en termes de notoriété, de rencontres, enfin c'est un vrai boost. Il faut aussi préciser parce que quand j'ai été listé dans les sorties Under 30 France, j'ai reçu plusieurs messages. Est-ce que t'as payé pour faire partie du classement ?
Ah c'est drôle.
Alors non, ce n'est pas payant. Personne ne paye pour faire partie de cette liste.
Oui.
C'est vraiment par sélection d'un jury d'entrepreneurs généralement et aussi du magazine Forbes évidemment. Mais effectivement c'est totalement gratuit. Et c'est un vrai booster, effectivement, de rencontres humaines, de gens très talentueux, sur plein de sujets très différents. Toi, pour le coup, tu avais aussi l'aspect Europe qui fait que plein de gens de pays différents, donc très, très multiculturel et encore plus intéressant, entre guillemets. Mais du coup, ouais, c'est un vrai booster.
Oui, ouais. Absolument. On avait un grand dîner où les nominés du classement Europe, du classement Asie, du classement Amérique étaient tous rassemblés. Donc c'était vraiment extrêmement stimulant. Il y avait un psychologue spécialisé sur l'anthropologie et les phénomènes sociétaux qui parlait justement du mimétisme social. Au final, humainement, plus on est entouré, ça a été scientifiquement prouvé, plus on est entouré de personnes qui ont réussi, plus on va être enclin à réussir, plus on est entouré de personnes qui sont, par exemple, c'est horrible de le dire, mais c'était les recherches. Plus on est entouré de personnes qui sont en surpoids, plus nous aussi on va être en surpoids, plus on est entouré de gens qui sont sportifs, plus nous on va être enclin à être sportif. Donc il y a ce mimétisme social qui s'offre de façon consciente et inconsciente. L'environnement de facto nous influence et quand on est entouré de personnes qui sont extrêmement ambitieux et stimulés, eh bien ça nous stimule naturellement et nous aussi on veut vouloir être ambitieux et penser beaucoup plus grand qu'on ne le penserait. Donc je pense que c'est important de bien s'entourer et c'est très stimulant d'être avec des gens comme ça. Ouais.
Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a une phrase qui est intéressante et qui a été reprise par le podcast Génération Do It Yourself.
Ouais.
Cette phrase, c'est « On est la moyenne des personnes qui nous entourent ».
Ah oui, oui.
Et exactement. Tu vois, je pense que ça correspond parfaitement avec ce que tu viens de me dire, finalement.
Complètement. Après, je veux pas qu'on rentre sur un espèce de déterminisme.
Non, bien
voilà,
sûr.
Complètement. Mais,
et puis
mais,
après, voilà, puis, y a final, aussi le fait de s'élever, tu vois, dans la...
Exactement. Par exemple, moi, je suis partie d'un milieu modeste où on n'avait pas forcément de réseau. J'ai une de mes meilleures amies, Dunia Atala, qui est avocate en droit de la famille, qui est dans le meilleur avocat en divorce. Elle est partie de rien aussi, et c'est ce que je lui ai dit la semaine dernière. Effectivement, on est parti sans réseau, mais le réseau, il se construit. Donc au final, il y a des gens effectivement qui ont eu peut-être des avantages de base, mais rien n'est marqué dans la grave, comme on dit en français. Rien n'est marqué dans le marbre. On a la chance de d'avoir une vie et d'être libre. On a 80, 90 ans pour changer les choses, changer la donne, et c'est à nous de le faire. Donc le réseau, il se construit, et une fois qu'on l'a, et c'est à nous aussi de choisir quels seront nos partenaires, avec qui on veut passer du temps et avec qui on veut se nourrir. Et c'est quelque chose qui est mutuel, hein, à partir du moment où moi je me nourris de toi, tu te nourris de moi, et on se stimule mutuellement, et ça, c'est quelque chose qui est très fort.
C'est aussi un des intérêts de l'entrepreneuriat.
Oui, absolument. Absolument.
Ce fait de pouvoir partir de zéro et arriver potentiellement à une belle trajectoire.
Absolument. Puis même, il y a un écrivain qui décrivait en trois phases l'ascension humaine. On passe de la première phase 1, de la phase de dépendance, à l'indépendance, à l'interdépendance. Donc la phase 1, indépendance, on est enfant, on dépend de nos parents. Après, jusqu'au jour où on a cette indépendance-là, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est plus fort quand on s'allie avec les autres. Ouais. Et on est et l'interdépendance, ça, c'est beaucoup plus puissant que quand on est seul dans notre coin à essayer de faire changer les choses, que quand on est plusieurs.
Après cette belle expérience chez Caravel, qu'est-ce que tu fais ?
Une fois que je suis partie, que j'ai vendu, je suis partie, j'avais envie de temps pour moi, et il y a vraiment un moment qui a été clé dans ma vie. Je suis partie au Népal dans un monastère à Katmandou, et j'ai vécu pendant 2 semaines avec des moines. Et ça a été vraiment une expérience qui m'a transformée, et en tout cas qui a remis mes priorités, qui les a remis en question, on va dire ça comme ça. Donc pendant 2 semaines, on se lève à 5h du matin, on fait de la méditation pendant 2 heures. Ensuite, on a des cours sur le bouddhisme. Et ensuite, l'après-midi, on est séparés en petits groupes et on débat sur des sujets qui sont assez importants, de la vie, la mort, l'amour, et avec notre propre expérience personnelle et les enseignements bouddhiques qu'on a eus. Donc, c'était ultra intéressant. Et ce qui est intéressant quand tu parles aux moines, c'est que peu importe notre background, peu importe d'où l'on vient, peu importe le pays, le contexte culturel dans lequel on a été, eh bien, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. C'est l'amour, la mort, le sens à la vie et le bonheur. Donc, c'est vraiment les 4 grands sujets qui reviennent tous. Au final, on a beau avoir eu des contextes, des backgrounds différents, on est tous pareils, on a tous les mêmes aspirations. Et ça se matérialise de façon différente, mais le fond est le même. Donc c'est assez intéressant de comprendre ça. Et j'ai eu plusieurs enseignements. Un, ça a été par rapport à celui du bonheur, qui est assez intéressant parce que la plupart des gens font dépendre leur bonheur de choses extérieures. Un statut social, un patrimoine, un être aimé également, c'est quelque chose d'extérieur. Et à partir du moment où tu rends ton bonheur tributaire de choses extérieures, comme le monde, par définition, est en perpétuel changement, eh bien ton bonheur ne sera jamais stable. Et donc si tu veux que ton bonheur soit stable et profondément ancré, il ne peut venir que de l'intérieur. Ça, c'est très beau en théorie, et ça, c'est l'enseignement principal bouddhique. Les moines, c'est ce qu'ils cultivent à travers la méditation, et c'est très difficile à l'appliquer parce que ça veut dire que peu importe l'atrocité qui se passe et le monde s'écroule devant toi, tu dois quand même continuer d'être heureux. C'est difficile, mais quand tu arrives à l'atteindre, c'est très beau. Et ça, c'était un très bel enseignement. Et il y avait un autre point qui était celui de l'amour. Et ça, c'était assez, parce qu'en plus, je venais d'une déception amoureuse également, et c'était assez intéressant puisqu'en fait, l'amour bouddhique est très différent de ce que l'amour dont on parle. En fait, la plupart des gens pensent qu'ils sont amoureux, mais en réalité, ils sont simplement attachés. Et ils font la différence entre l'amour et l'attachement. Et qu'est-ce que c'est que l'attachement pour eux, ou l'amour qu'on pense être un amour, c'est je t'aime, because how you make me feel. Donc ça veut dire que c'est un amour qui est égoïste. Dès l'instant où tu me fais du mal, ben, je ne t'aime plus. Donc c'est un amour qui est rapporté à toi. Je t'aime uniquement parce que tu me fais sentir quelque chose de positif. Donc quand tu es dans un amour égoïste, ça ne marche pas en tout cas. Et l'amour bouddhique, c'est je t'aime indépendamment the how you make me feel. C'est-à-dire, même si tu me fais du mal, je vais continuer de t'aimer. Et ça, pareil, comme le bonheur, c'est quelque chose de très difficile à appliquer, mais en théorie, c'est très beau. Mais tu vois, ce qui est le plus naturel, bah, c'est l'amour maternel, l'amour paternel, qui vont aimer leurs enfants, indépendamment de ce qu'il arrive, vont toujours l'aimer. Et l'amour bouddhique, c'est comment être capable d'élargir ce cercle le plus loin possible. Donc, c'est facile d'aimer sa famille, c'est facile d'aimer ses proches. Mais est-ce que être capable d'aimer autant quelqu'un que tu as rencontré une seule fois, et être capable d'aimer quelqu'un même qui te déteste ou qui veut te tuer dans certains cas, hein. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et je me souviens, j'avais parlé à un moine et je lui ai dit, écoute, je comprends ce que tu dis, mais aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on est beaucoup dans cette recherche du bonheur, je veux être heureux. Je trouve que c'est le symptôme d'une société qui est très auto-centrée et très nombriliste. On ne pense qu'à son propre bonheur. Je trouve que c'est quelque chose de très égoïste. Qu'est-ce que t'en penses de penser au bonheur? Et ce moine m'a répondu, écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, quand tu réfléchis un peu plus loin, cultiver le bonheur et cette paix intérieure et cette bienveillance, c'est une énergie qui se transmet au final. Quand tu es devant quelqu'un qui est stressé, eh bien, il va te transmettre son stress. Quand tu es devant quelqu'un qui est lumineux et apaisant, il va te transmettre ça. Et donc, au final, et quand il faisait le lien justement avec le bonheur et l'amour, quand tu es capable de transmettre cette bienveillance à tes proches, mais aussi à quelqu'un que tu as rencontré qu'une seule fois, mais également à ton ennemi, eh bien, c'est que comme ça que tu peux reverse la situation. Parce que quand tu réponds à quelqu'un, à tes ennemis par de la bienveillance, eh bien, non, par la violence, ben c'est que l'escalade de violence. Alors que si tu réponds par la bienveillance et la paix intérieure, il y a que comme ça que tu peux reverse la situation. Et donc, au final, plus il y a de gens qui sont heureux, plus le monde le sera, parce que cette énergie, elle se transmet et ça se ressent dans les rapports humains. On le sent, moi, quand tu t'apprécies quelqu'un parce qu'il a cette énergie qui est positive et qui t'apaise, et quelqu'un qui est tout le temps dans cette énergie négative à critiquer tout le monde, tu le ressens aussi. Et bien, je pense que c'était quelque chose qui était assez intéressant. Et le bouddhisme, elle se rapproche aussi de la philosophie confucéenne et même asiatique. Et je pense qu'il manque beaucoup chez certains, c'est cette vision long terme. Cette vision long terme, je pense que déjà, comme tout entrepreneur, il faut absolument l'avoir en vue, cette capacité à prévoir et à voir loin, plutôt que de chercher des gains court terme, avoir cette vision long terme, mais pas seulement la vision de l'exit. Là, je parle vraiment de la vie, quand les gens disent, voilà, au final, même si toi, tu vas pas forcément réussir à bâtir le point final que tu aimerais, mais tu auras un petit peu avancé, et puis quand tu seras parti, mais il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre le relais et qui va continuer là où tu t'es arrêté. Donc ça, c'est déjà ça, c'est une victoire. Les gens sont trop durs avec eux-mêmes et à se dire voilà, il faut que j'arrive à par exemple, je sais pas, par exemple une voiture qui va voler, il faut que la voiture elle arrive à voler, peut-être qu'elle arrivera pas à voler, mais t'auras donné des clés nécessaires technologiques pour que le prochain il puisse arriver à l'étape d'après. Et ça c'est quand tu penses à ça, c'est, je pense que ça te permet d'avoir un lâcher prise par rapport à la vie et par rapport à ton business aussi.
Tu sors de ces deux semaines avec beaucoup d'enseignements.
Oui.
Comment est-ce que tu ressors de tout ça? Avec quels enseignements, justement?
Eh bien, écoute, moi, ça a vraiment mis les... mes priorités ont été un petit peu changées. Aujourd'hui, là, par exemple, la société dans laquelle... La deuxième société, on a un pan social que j'avais pas du tout pour la première et qui est importante pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je mets aussi beaucoup plus de temps à ma famille. Mon père qui est un peu plus âgé aujourd'hui j'essaye de passer le plus en possible avec lui. D'ailleurs, je te le dis tout à l'heure, mon père parle pas forcément très bien le français. Donc là, aujourd'hui, on a un projet avec mon père où je traduis tous ses livres en chinois et on va publier un livre avec lui et moi sur ces pensées-là. C'est clairement, enfin, ça n'a aucune portée financière, quoi. C'est vraiment pour passer du temps avec lui et parce que pour lui, ça lui fait plaisir et c'est important pour lui. Donc, je veux le faire avec lui et ça le rend heureux qu'on écrit un livre à son sujet dessus. D'ailleurs, ça reprend la thèse qu'il avait prise quand il était à Paris. Quand il était à Paris, il avait fait une thèse dont d'ailleurs le rapporteur de thèse était François Cheung, qui est l'académicien franco-chinois à l'Académie de France. Et son sujet de thèse, c'était de la famille aristocratique à la famille économique en Chine, avec l'évolution du concept de famille au fil des dynasties. Donc c'est très intéressant. Super intéressant. Chaque dynastie a contribué à façonner la notion de famille qui a évolué de la famille aristocratique à la famille économique, mais le noyau reste toujours le même. Donc c'est très intéressant.
Ton objectif, c'est de le rendre disponible en France?
Oui,
en français.
En français, et puis mon père également aussi. Il a écrit ça quand il avait 30 ans, et là aujourd'hui, il veut le nourrir davantage.
Ouais.
Donc, on est en train de l'étoffer, et donc c'est un gros projet que je fais avec mon père et qui me prend beaucoup de temps. Mais je suis très heureuse de le faire aujourd'hui, alors que quand j'étais dans ma première boîte, malheureusement, et ça a été pour moi une erreur, mais chacun fait son chemin. J'ai quand même sacrifié ma vie personnelle et j'ai passé très peu de temps avec ma famille. Et là, maintenant que mon père est âgé, je m'en veux un peu et j'essaye de passer le plus en possible avec lui. Donc ça a beaucoup changé.
Ça fait malheureusement partie du chemin. Et je pense que la majorité aussi des entrepreneurs qu'on a reçus, forcément au départ de l'aventure, il y a beaucoup de sacrifices.
Oui.
Et dans ces sacrifices, il y a aussi la partie famille, la partie amie qui est impactée par ce début d'aventure où en fait t'es tellement à 300% dans ce que tu fais que tout ce qu'il y a autour de toi paraît très peu important, entre guillemets. Donc en décembre 2022, tu crées Anya, donc il y a quelques mois finalement, c'est assez récent comme projet. Et pourtant, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse de cette aventure et pourquoi est-ce que t'as décidé de créer Anya, qui est une marque de thé pas comme les autres finalement?
Oui, alors donc c'est très récent, ça fait que 6 mois qu'on a ouvert et... Anya est une maison de thé haut de gamme et en fait, comment c'est venu? Ma tante a investi dans les jardins de thé, dans les plantations de thé depuis une vingtaine d'années. Mon oncle est collectionneur de thé et ma famille vient du Yunnan. Et le Yunnan, c'est la région où a été découvert le thé il y a 5000 ans. Donc c'est à la fois profondément enraciné dans la culture, mais aussi dans la famille, puisque ma famille est investie, ma tante est investisseur dedans. Donc moi j'ai l'année dernière investi à ses côtés, et c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure, ma volonté aussi de me rapprocher de ma famille, de ma culture et de mes racines, qui m'a poussée à faire Anya. Ouais.
Comment est-ce que ça se passe le début de ce projet? Et comment sont sélectionnés les thés? Parce que là, on parle de grands crus, de premiers crus. Moi, j'y connais pas grand-chose. à titre de comparaison versus une marque de thé traditionnelle,
ouais.
Est-ce que tu peux me parler de tout ça?
Alors oui, donc on est sur, donc on a 5 plantations de thé, 3 dans le Yunnan et 2 dans le Fujian, qui sont ce qu'on appelle des thés rares et des thés grands crus, rares du fait de leur production extrêmement limitée et du fait de la particularité de leur terroir, qui est aussi de la complexité dans leur processus de fabrication. Donc t'as 3 points.
On peut le comparer à du vin finalement,
oui,
grand cru.
Complètement, exactement. Complètement. Là, par exemple, tu sais, dans le Yunnan, c'est la seule région au monde où on a des forêts de théiers millénaires, des forêts de théiers qui ont plus de 1000 ans. L'arbre de thé est encore en vie à 3600 ans d'âge. Donc, en fait, le Yunnan, c'est vraiment un terroir miraculé qui a toutes les conditions climatiques et l'écosystème nécessaire pour permettre le développement de thé grand cru. Et donc, preuve en est, le Yunnan, c'est la seule région au monde où il y a des forêts de théiers millénaires. Et en fait, au-delà de 1000 ans, c'est pour la plupart protégé par le gouvernement, par l'État. On n'a pas le droit d'y toucher. Mais en dessous, on peut encore, sous certaines conditions, les exploiter. Et on a de la chance dans deux de nos jardins de thé d'avoir des arbres de thé centenaires. Il y en a qui ont 600 ans d'âge, d'autres qui ont 300 ans d'âge. Et ça, c'est ça se ressent dans la tasse. Il y a une profondeur dans le goût, dans les tanins et qui se ressent et qui est très particulier. La prochaine fois, je te ferai goûter nos thés et tu verras à quoi ça ressemble. Donc on est sur des thés rares évidemment, donc production extrêmement limitée, hein, les arbres ils se comptent, hein, et les processus parfois est aussi complexe. Par exemple, notre thé blanc au jasmin, c'est des thés qu'on cueille que 2 jours par an uniquement.
Ah oui.
Donc on est sur les meilleurs de la récolte, parce que après il y a des thés qui se récoltent en automne et à la fin de l'été qui sont de moins bonne qualité, mais ça c'est pas notre créneau. Donc on les cueille que 2 jours par an, les plus fraîches du début du printemps, et ensuite on attend l'été, parce que le jasmin lui se cueille l'été. Et le jasmin, je sais pas si ça existe en Bretagne, du jasmin, mais en tout cas dans le sud de la France, il y a beaucoup de jasmin dans les jardins. Et quand on se promène à Nice, à Saint-Tropez, on sent beaucoup le jasmin le soir, parce que cette fleur, elle a la particularité d'émettre le plus d'huiles essentielles pendant la nuit. Et donc, pour maximiser le rendement, ce que font nos fermiers, c'est qu'ils attendent la nuit tombée et ils vont ensuite cueillir les jasmins. Et ils vont mettre un lit de jasmin sous notre lit de bourgeons de thé blanc qui vont faire imprégner de leur parfum pendant 7 nuits de suite. Et donc pendant 7 nuits, c'est le même rituel. Ils vont recueillir des jasmins frais et ils vont faire la même chose, un lit de jasmin sous notre lit de bourgeons de thé blanc qui vont faire imprégner de leur parfum. Et ça crée une délicatesse et une subtilité dans le goût que tu trouves pas dans les autres thés au jasmin. La plupart des autres, soit ils ajoutent du jasmin ou de l'arôme de jasmin. Ça se fait de moins en moins parce que c'est coûteux, ça prend du temps. Mais nous, on a pris le parti pris de garder ces processus-là.
Donc c'est un vrai savoir-faire artisanal. À la main, finalement.
Oui, complètement. À la main et sans aucun pesticide qui est utilisé. Donc, on fait très attention à ça, oui.
Anya, c'est aussi une expérience, puisqu'on peut vivre cette expérience dans les bureaux de Anya. Cette expérience, c'est la cérémonie traditionnelle du thé. Est-ce que tu peux me la raconter?
Oui.
Pourra peut-être la vivre après.
Oui, alors l'expérience. Mais je pense que c'est surtout ça qui nous a démarqué de nos concurrents.
C'est pour ça que je veux en parler.
Aussi vite, parce que Anya n'a que 6 mois d'existence à Paris. Mais ce qui nous a différenciés, c'est vraiment l'expérience du thé. Faire vivre l'expérience de la culture du thé. Chose que nous n'ont pas les autres concurrents. Et c'est assez intéressant parce que justement, juste avant, je crois que c'était 2 jours avant ma soirée de lancement, j'avais déjeuné avec Fiona, qui est la petite fille du fondateur de Daman. On avait déjeuné puisqu'elle était au courant d'Anya et voulait en savoir beaucoup plus et justement éventuellement travailler ensemble. Et c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Julie, toi, tu as quelque chose que ni Dama ni Mariage Frère ont. C'est que toi, tu as cette authenticité-là. Tu es légitime pour faire des cérémonies traditionnelles chinoises. Tu as toute la culture qui va avec et donc tu es légitime. Si Dama ou Mariage Frère, marque française ou Kusmiti dit, on va faire des cérémonies du thé, ils peuvent le faire, mais il y a pas toute cette culture derrière. Et donc il dit, toi, tu peux l'incarner cette culture, et c'est vrai. Et c'est ce qui nous a différencié et ce qui nous a permis d'être rapidement avoir notre place, parce que il y a toute la culture qui va avec. C'est pas seulement le thé, c'est pas seulement le produit, mais c'est l'expérience de thé et toute la culture qui va avec. Tout à l'heure, je t'avais expliqué le traité des rites et le confucianisme, ça va avec la cérémonie du thé. En Asie, le thé, c'est bien plus qu'une boisson. C'est d'abord une culture, c'est une histoire, c'est un art également, avec un caractère spirituel et rituel très fort, et qui se matérialise dans les gestes de la cérémonie du thé. Quand tu regardes la cérémonie du thé, tu as vraiment inspiré de la philosophie bouddhique, taoïste, confucianiste, et par extension zen pour la cérémonie du thé japonaise. Et d'ailleurs, même quand tu regardes la cérémonie du thé, elle s'est construite avec le temps. Elle était initialement venue de ce besoin de respect de, envers la nature, de gratitude envers la nature, mais également ce besoin de reconnexion avec soi-même et de recherche de paix intérieure. Quand l'homme est aligné avec la nature, il est en paix. Et ça, c'est une vision taoïste de l'homme formant un tout harmonieux avec la nature qui se retrouve même dans l'idéogramme T. Quand tu décomposes le T, eh bien, en haut, c'est la plante, au milieu, c'est l'homme et en bas, c'est le bois, la forêt. L'homme au centre de la nature veut dire le thé. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est aussi un exercice de concentration sur soi-même. Hein. En fait, le fait de se concentrer aussi fortement sur sa robe, sur son arôme, sur son fumet, sur son goût, c'est un exercice méditatif qui est très fort. On est complètement pris par nos sens et plus rien d'autre ne compte. Donc c'est très nourrissant intellectuellement et il y a un côté très apaisant. En fait, la cérémonie du thé, on pourrait le résumer à travers quatre piliers. C'est vraiment l'exercice méditatif, la contemplation. Mais on a également la pureté, la recherche de la perfection qui est très importante, l'exercice de concentration sur soi-même et enfin et surtout l'hospitalité. C'est vraiment le partage avec nos convives. Tout à l'heure, je te parlais de l'importance des rites, le destinataire du rite et l'acteur du rite, où on est dans un exercice d'échange harmonieux. Moi, quand je pense au thé, je pense à le thé quand je le bois seul, mais aussi le thé quand je le bois en famille, et c'est vraiment un moment de partage.
Tout est très philosophique.
Tout est très philosophique, et puis même quand on fait la cérémonie du thé, on a notre artiste qui nous accompagne, de sitar chinoise. Sitar chinois, c'est l'instrument préféré des lettrés en Chine. On appelle ça le guzheng. On le joue depuis 2000 ans, depuis la dynastie Qing. Et c'est l'instrument préféré des lettrés en Chine parce qu'il fait partie des quatre arts nobles qui ont été sacralisés. En Chine, on a quatre arts nobles que sont la sitar chinoise, la calligraphie, le jeu de go et la peinture. Et selon la philosophie confucéenne, toute femme ou tout homme qui arriverait à maîtriser ces quatre arts est un homme complet. Et donc, de fait, la sitar chinoise est un des instruments préférés et on le joue tout le temps, très souvent, dans la cérémonie du thé, parce que le fait d'être stimulé par un autre sens permet vraiment d'avoir une expérience beaucoup plus profonde. Et là, on est dans immersion totale, en étant stimulé avec l'ouïe également. Et la sitar chinoise et la cérémonie du thé, le fait de l'avoir, c'est un signe de respect vis-à-vis de nos convives, mais aussi un signe de haute éducation pour celui qui reçoit. Donc c'est très important et on est vraiment dans le cérémonial complet.
Ouais. Et pour les entrepreneurs qui souhaitent participer à cette expérience, comment ça se passe? C'est sur réservation
Oui, alors là, pour l'instant, c'est uniquement sur réservation, sur invitation. Donc, on invite uniquement nos clients à le faire. Mais là, l'année prochaine, on va ouvrir un lieu qui sera accessible au grand public et qui sera où il y aura le cérémonial de thé et où on n'aura plus besoin de réservation. Pas en 2024.
Trop bien.
Ouais.
C'est très relié à la dernière question sur Rania. C'est quoi les objectifs futurs? Et donc, effectivement, il y a le fait d'ouvrir un lieu public.
Oui, voilà. Donc, il y aura évidemment le lieu public du cérémonial avec toute l'expérience du thé. Et on aura également le salon de thé qu'on peut, sans avoir le cérémonial, où on pourra boire du thé toute la journée. Et c'est marrant parce qu'il va être bar à thé la journée et bar à cocktail le soir.
Mmh. Et... Deux ambiances.
Deux ambiances très différentes, mais c'est assez différent.
Mais complémentaires.
Mais complémentaires. Et en fait, ce qui est intéressant, comme quoi c'est toujours intéressant d'écouter le marché. En fait, à la base, pourquoi on n'a pas voulu ouvrir un lieu tout de suite? C'est parce que les six premiers mois ou la première année, c'était les six premiers mois de la phase exploratoire du test and learn et de trouver le proof of concept. Est-ce que le marché va être responsive? Comment on dit en français? Excuse-moi.
Prêt. Hein?
Voilà. Est-ce que le marché va être responsive à notre offre? Est-ce que elle est pas trop premium parce qu'on est quand même sur des thés très haut de gamme? Donc il fallait quand même le proof of concept. Est-ce que ils vont apprécier la cérémonie du thé? Donc avant d'investir massivement en capex sur le lieu, il faut vérifier que le marché est là. Et donc, effectivement, on a fait une fois par semaine des cérémonies du thé avec nos clients et avec d'autres personnes. Le proof of concept a été validé. Les gens adorent la cérémonie du thé. Et donc, on est suffisamment confiant pour investir financièrement davantage pour avoir notre propre lieu. Mais ce qui a été la grande surprise, c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter le marché, c'est que quand on faisait la cérémonie du thé, souvent avant... ça a été un conseil d'ailleurs de mon premier client qui l'avait fait pour son entreprise. Il m'a dit, écoute Julie, donc là, on va faire la cérémonie du thé pour mes top managers. Voilà, maintenant je te préviens, c'est des Français, c'est pas des Asiatiques. La cérémonie du thé, ils l'ont jamais fait. On sort d'une réunion de Comex, donc ils sont encore un peu stressés. Donne-leur une coupe de champagne avant pour qu'ils soient un peu à l'aise et qu'ils déconnectent un petit peu. On est en France, on n'est pas en Asie. Donc, et c'est marrant parce que du coup, comme on m'a dit ça, bah, c'est devenu un peu le rituel où avant de commencer la cérémonie du thé, on a une petite coupe de champagne avant pour se détendre et après on commence la cérémonie du thé. Puis au départ, c'était la coupe de champagne parce qu'ils me l'ont demandé. Et après, je me suis dit que ça n'avait pas de sens. Donc, j'ai pris un mixologue qui a fait des cocktails de thé à base de noté.
Trop bien.
Et à la base, c'était uniquement juste un petit welcome drink avant de commencer l'expérience. Et finalement, ça a été une grande surprise. Tu me dis, mais ton cocktail est délicieux. On faisait de la liqueur de rose avec notre thé Anya. Mmh. Ils adoraient ça. Je me dis, mais où est-ce qu'on peut trouver tes cocktails? Donc voilà, écoutez le marché. Écoutez le marché, c'est ultra important. Comme je te dis, l'idée de base, eh ben, elle va être nourrie par tes clients. Et on dit ok, donc il y a aussi une phase alcoolique
super important,
ouais. Hyper importante. Ça va être bar à thé le jour et bar à cocktail la nuit.
Donc une belle étape du coup.
Non mais ça va être très drôle parce qu'en fait c'est un truc qui cartonne à Shanghai où en fait la journée à 14h ce sera uniquement du thé et on va jouer avec le cérémonial évidemment. Mais à mesure que les heures avancent et à mesure que le soleil se couche, eh bien il y aura un peu moins de thé et un peu plus d'alcool. Un peu moins, jusqu'à la nuit tombée où ce sera full alcool. Et à chaque moment où on va augmenter la dose, il y aura notre fameux gong qui va être retenti pour annoncer à nos clients qu'on va augmenter la dose.
Voilà. Tu m'as donné envie de tester. Donc,
non, d'ailleurs, je t'offrirai la carte puisque c'est au public, mais ce sera sur membership. Donc, donc tu vois un peu le business model de Soho House.
Bien sûr.
Voilà. Donc, d'ailleurs, Soho House nous a contacté parce qu'ils sont intéressés pour qu'on fasse un pop-up pour leurs membres. Et nous, quand on va ouvrir l'année prochaine, ce sera également sous membership avec Soho House. Enfin, un peu dans le business model de Soho House. Ce sera bar à thé le jour, bar à cocktail la nuit, avec l'espace évidemment restauration Asian Fusion. Et le côté, tu connais Italie de BHV, qui a été une énorme succès, épicerie fine italienne. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, mais en fait, on n'a pas d'épicerie fine asiatique. Asian Fusion, donc on va faire donc toute la partie épicerie fine également asiatique, donc évidemment nos thés grands crus, mais également tout le reste qui va avec. Et donc on aura un lieu où on est en immersion totale du plaisir des sens, mais tout ce sera voilà beaucoup plus complet. Mais maintenant que la phase proof of concept a été validée, on va déployer ça l'année prochaine.
Ouais. Donc tout un prolongement du concept finalement.
Exactement. Mais voilà, comme je te dis tout à l'heure. Risque calculé. On va pas tout de suite investir 5 millions dans une boîte tant qu'on n'est pas sûr que le marché qu'il y ait un marché. Et donc il faut d'abord commencer par petit showroom. On invite des gens. Est-ce que vous aimez ça? Test and learn. Et là, quand ça a été validé, on va pouvoir investir pour un lieu. Il va ouvrir l'année prochaine. Je t'inviterai à la soirée de lancement.
Avec plaisir.
C'est très drôle.
Avec plaisir. J'ai hâte.
Du coup, on aura le lieu de vie qui sera le lieu d'Anya où tu auras tout l'immersion où tous les sens seront appelés avec la partie restauration et bar. Mais ensuite, la partie produit, évidemment, les thés grands crus Anya, on continue à développer. Et puis, on aura la partie liqueur de thé qui va être développée également. Et c'est sur les produits-là que ça va être scalable. Parce que le lieu de vie, c'est le lieu pour l'univers et pour l'identité. Mais ce qui va scaler la boîte, ça va être le thé, la liqueur de thé qui va être vendu partout. Okay. Et ça, c'est la partie scale.
Super.
Voilà.
Eh bien, écoute, on va pouvoir passer à la partie bilan avec deux petites questions.
Yeah.
La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure au global,
tu vois.
Est-ce qu'il y a un moment où t'as été, où ça a été vraiment particulièrement difficile?
Oui. Oh, il y en a eu beaucoup. Tu veux que je choisisse un?
Un en particulier. Ouais. Potentiellement le plus difficile?
En fait, c'est marrant parce qu'en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, t'as toujours des moments difficiles, des moments de remise en question. Mais à mesure où tu avances, je pense que t'es plus armé. Et donc, ta tolérance,
reçois pas de la même manière.
Voilà,
ton seuil de tolérance.
Oui, voilà, ton seuil de tolérance est beaucoup plus grand, donc ça te fait moins mal au final, et tu t'en rends même plus compte. Donc je pense que le moment était plus difficile, c'était la première grosse claque. J'étais en Chine, j'avais réussi à avoir un contrat avec le plus gros tour opérateur de Pékin, qui m'avait promis 50 000 touristes pour la saison hiver. Et donc, j'étais très contente. On avait signé ça. J'en avais parlé à nos hôteliers en France. Et donc, sur les 50 000 promis et contractualisés, hein, ils nous en ont envoyé 57. Et là, je viens les voir, je dis, foutez de notre gueule. Enfin, je veux dire, comment ça, 57? Et là, ça va pas du tout. Et là, ça a été grosse confrontation. Et je me souviens très bien de l'eau. Et elle m'a dit, mais Julie, c'est pas le contrat qui décide, c'est le marché. Textuellement. Tu vois, écoute, on a essayé de promouvoir ton produit, le marché n'a pas trop voulu, bah tant pis. Et là, j'ai trouvé ça très difficile. Et surtout, je me suis rendu compte effectivement qu'en Chine, le contrat a une valeur juridique quasi nulle, surtout. Donc, ma première grosse claque, grosse remise en question. J'ai failli abandonner. Et au final, à un moment donné, et je pense que c'est aussi ça la difficulté et la force quand t'es entrepreneur, parce que au départ, même si quand tu commences à entreprendre ta boîte, tu le fais pour toi, ben à un moment donné, y a plus que toi dans le bateau, donc tu dois penser aux autres et t'es obligé de continuer. C'est assez intéressant parce que je me souviens, on m'avait posé une question une fois sur pourquoi t'as créé ta boîte au début. Et ce qui est intéressant, c'est que les entrepreneurs, ils vont beau dire créer un impact positif sur le monde, changer le monde, change the world, etc. Le joli storytelling que tout le monde dit. Au final, au départ, souvent, c'est quand même des considérations très personnelles et très égoïstes, centrées sur toi. Les trois principaux moteurs, c'est l'argent, le pouvoir ou la reconnaissance sociale. Moi, ça a été clairement la reconnaissance sociale. En tout cas, moi, je voulais vraiment que mes parents soient fiers de moi, leur prouver que j'avais pas tort d'abandonner le métier d'avocat, et je voulais également que mon copain de l'époque soit fier de moi, lui prouver que j'étais aussi capable de faire quelque chose. Donc au départ, ça part beaucoup d'une envie personnelle, hein. Le pouvoir, l'argent ou la reconnaissance, c'est personnel, mais à mesure où tu avances, eh bien
ça évolue.
It's not about you anymore. Enfin, à partir du moment où tu embarques une équipe, à partir du moment où tu embarques des clients qui t'ont fait confiance, des investisseurs qui t'ont fait confiance, des partenaires qui t'ont fait confiance, qui ont mis leur réputation en jeu parce qu'ils ont cru en toi, eh bien, tu peux plus penser de façon égoïste, en fait. C'est facile d'abandonner, de dire, bon, j'abandonne et puis je recommence et je fais quelque chose d'autre. Mais là, tu peux plus penser comme ça parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en jeu. Exactement. Donc, au final, ce qui était à la base une considération très personnelle et égoïste, il y a un shift qui s'opère à un moment donné et on est sur un drive beaucoup plus collectif et on pense à beaucoup plus à d'autres personnes et t'es obligé de continuer. Mais je pense que à chaque fois que j'ai voulu abandonner, c'est vraiment mon équipe, les gens qui m'ont fait confiance et le reste qui m'a poussé à continuer. Parce que si t'étais seul, c'est facile d'abandonner en fait. Bien sûr. T'es seul, tu recommences et puis voilà.
L'importance justement d'être bien entouré, que ce soit par son équipe, mais même son entourage personnel, entre guillemets.
Absolument, absolument, ouais.
Ma deuxième question, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ces dernières années? Vraiment le moment où tu t'es sentie la plus heureuse, entre guillemets.
C'est marrant parce que je vais te donner une réponse qui va peut-être te surprendre, mais parce que en fait moi je pense à des petits bonheurs qui m'ont rendue particulièrement heureuse. Par exemple Camille qui était une de mes juniors que j'ai pris, qui a fait partie de mon équipe et que j'ai fait grandir et qui au fur et à mesure a eu des responsabilités. Bah quand elle est tombée enceinte, elle a appelé son fils Yann. Mon nom de famille. Mmh. Et ça m'a énormément touchée. Et ça,
c'est une belle anecdote.
Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Moi, je te l'ai pas dit, mais pour ma première boîte, j'ai embauché ma mère. Et quand j'ai quitté la première boîte, ma mère a continué de rester dans Caravelle. Elle a pris ma place et je la trouve beaucoup plus épanouie maintenant que quand elle était dans son ancien job. Et ça me rend particulièrement heureuse. Ce sont des...
De toute façon, c'est très relié à ta philosophie de vie, à tes deux semaines au Népal aussi. C'est-à-dire que chaque petit moment est un grand moment potentiellement aussi.
Absolument, ouais. Absolument. Chaque petit moment est un grand moment. Et puis au final, l'entrepreneuriat et puis même la vie, hein, c'est une aventure humaine. Ouais. C'est
plus important et en même temps, ce qu'il y a de plus difficile aussi, les relations humaines dans l'entrepreneuriat.
Oui, mais c'est ce qui fait la beauté, c'est l'émotion, les fois. Je me souviens une fois avec Yvonne, on avait eu un contrat en Chine. C'était un de nos premiers contrats à Shanghai et c'était drôle. Maintenant que j'y repense, on a eu le contrat. Il nous a dit OK, on vous prend et on a signé. Et Yvonne, je lui dis viens, je vais aux toilettes, tu m'accompagnes. On est parti aux toilettes de l'entreprise. On est parti aux toilettes. Et on a commencé à se prendre dans les bras. On était tellement heureux. C'était notre tout premier contrat qu'on avait eu à Shanghai. C'était ridicule de se retrouver aux toilettes pour s'embrasser, pour s'enlacer.
C'est important de fêter aussi le fait de fêter les petites victoires.
Oui, absolument. Mais on était tellement heureuse que je voulais même pas attendre le fait de retourner à notre bureau. J'ai dit, viens, j'ai cette envie pressante, allons aux toilettes. Et on est parti aux toilettes pour s'enlacer. Mais voilà. Et puis, donc oui, à chaque fois qu'on arrive à convaincre des clients, c'est une victoire exceptionnelle pour toute l'équipe. À chaque fois qu'on arrive à avancer, même un petit pas, c'est on est très heureux parce que même si c'est un petit pas, c'est le fruit de plusieurs mois de travail, donc à chaque fois c'est un soulagement total. Et puis quand on a des déceptions, on a des choses qui aboutissent pas, bah c'est on est tous très déçus, mais on continue d'avancer. Donc les victoires, on les célèbre à chaque fois, à chaque pas.
C'est une très bonne réponse. ça me va très bien. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur le mindset et l'entrepreneuriat, mais pas que. Avec une première question, c'est quoi pour toi le plus important dans le fait d'entreprendre ?
Alors, je pense que pour une entreprise, on va dire qu'il y a, grosso modo, en simplifiant, il y a vraiment quatre composants importants. Tu vois, l'idée, l'équipe, le financement et le marché, ou le timing, ou le voilà. Et après, une fois que t'as la bonne idée, t'as la bonne équipe, t'as le bon financement et t'as le bon marché, tu secoues un peu et puis normalement c'est quelque chose est censé en sortir. Voilà. Mais je pense que vraiment, évidemment, ces quatre sont les éléments, mais des quatre, le plus essentiel, ça reste l'équipe. Parce que au final, même si le marché va pas être bon pour toi, ou même si tu n'as pas suffisamment de financement, ou l'idée est moyenne, si tu as la bonne équipe, bah t'auras la force nécessaire pour t'adapter au marché, pour rectifier le tir et faire évoluer ton idée. Parce qu'au final, comme je t'ai dit, l'idée initiale est rarement l'idée finale qui va te faire réussir. Hein, c'est tout le temps en réponse avec le marché, par itération, qu'on améliore l'idée. Jeff Bezos à la base, c'était un il voulait vendre des livres en ligne et finalement il a vendu tout. donc ce qui est vraiment clé, c'est vraiment d'avoir la bonne équipe, de s'entourer avec les meilleures personnes, comprendre tes propres faiblesses également, parce que c'est bien de connaître ses forces, mais c'est le plus important, je pense, entrepreneur, c'est de connaître ses faiblesses et donc du coup de s'associer avec des équipes qui seront capables de combler ça, et comme ça tu peux pouvoir avancer avec en étant le plus armé possible.
L'autre question sur cette partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso ? Est-ce que t'as une barrière, ou est-ce que le pro et le perso sont dans la même dans le même environnement ?
J'essaye au maximum de séparer les deux. Dans le perso, on a un affect, on est forcément biaisé, et je pense que quand on est dans le business, ce biais doit pas rentrer. Si tu veux vraiment penser aux intérêts de l'entreprise, de l'équipe, de tes clients, tu dois pas être biaisé par tes affections personnelles, je pense. Après, ça c'est mon mode opératoire. Il y a des gens qui arrivent à dissocier. Moi, quand j'aime quelqu'un, je veux qu'il réussisse, donc je veux l'aider au maximum. Mais donc du coup, c'est peut-être si ça devient au détriment de l'entreprise ou de quelqu'un qui serait meilleur mais qui est moins proche de moi, ben non, ça, non, tu vois. Donc j'essaye au maximum de séparer pour rester le plus impartial possible et penser aux intérêts de l'entreprise avant les intérêts de mes amis. Enfin, ce serait pas logique.
Parce que tu entreprends aussi en famille avec ta tante Yang, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Comment ça se passe aussi le fait d'entreprendre en famille, entre guillemets, même si c'est quelque chose de naturel, j'imagine.
C'est marrant que tu dises ça.
Tu t'y attendais pas ?
Oui, non, parce qu'en plus je te dis l'inverse, mais effectivement je travaille avec ma famille, mais oui, avec Young c'est très difficile. Enfin, c'est très difficile. Il y a des choses compliquées, et puis même ma première boîte, j'avais embauché ma mère, donc c'était d'autant plus difficile parce que avec Young, elle est pas dans l'opérationnel, donc ça va, et on a des rôles qui sont très compartimentés, alors que dans la première boîte avec ma mère, j'étais sa manager. Donc Alors, c'est difficile quand on est dans l'opérationnel ensemble, et en plus de ça, quand l'ordre est inversé, c'est difficile de, pour une maman de, d'être dirigée par sa fille. Des fois, ben, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que tout est séparé et elle n'est pas du tout dans l'opérationnel. Elle a juste investi dans les plantations, mais elle s'occupe pas du tout de la distribution et du développement. Donc, à ce niveau-là, ça va.
On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast, okay, avec quelques petites questions plus génériques, on va dire. La première, elle est très simple, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand ça va pas?
Le sport, c'est vraiment essentiel pour moi. Je cours très souvent, j'ai fait 2 marathons, je devais en faire un troisième mais j'ai pas pu à cause d'une conférence. Donc je suis marathonienne, je cours énormément et je vais... souvent à la gym faire de la boxe pour me dépenser. Je pense que c'est un super exutoire, le sport. Ça permet vraiment de déconnecter et d'oublier un peu le stress et tout ce qui y va, hein, dans vraiment l'exutoire qui permet d'enlever toute cette charge mentale que tu as quand tu es entrepreneur. Puis je pense aussi que le sport, ça permet vraiment de développer cet esprit très combatif qui est propre à l'entrepreneur et qui est et aussi cette capacité à prévoir cette vision, parce qu'on est dans la boxe, il faut que tu prévois les coups des autres, et je pense que ça c'est important, et donc le sport pour moi quand ça va pas, c'est vraiment mon remède, et après je déconnecte et puis mon mental est d'autant plus régénéré et je reviens à l'attaque.
On fait souvent le parallèle avec le fait que les entrepreneurs qui réussissent, c'est des athlètes de haut niveau finalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec le sport. Parce que je pense que c'est extrêmement important, comme tu l'as dit, tu vois, pour extérioriser potentiellement les moments qui sont difficiles.
Bien sûr. Puis même au-delà de ça, c'est une discipline. C'est le fait d'aller tous les jours faire du sport de haut niveau ou pas, mais ça t'entraîne à cette résilience qui est tellement importante pour l'entrepreneur. Au final, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc c'est vraiment sur du long terme. Il faut pas abandonner au moindre obstacle, et donc il faut être capable d'aller au-delà de nos frustrations et de défaites, et de pas se décourager facilement, ce qui est le cas de beaucoup parfois. Et c'est marrant que je fais le lien à la boxe, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi c'est pas cette capacité à donner des coups, mais c'est vraiment cette capacité à encaisser le plus de coups possible et de continuer d'avancer malgré tout. Surtout au départ, quand on démarre, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire non quand vous n'êtes pas connu. Eh bien, il ne faut pas se laisser aller. Il faut continuer d'avancer malgré tout. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais le concept du Get In Pass No, qui est un concept qui a été développé par William Ury, qui est un professeur à Harvard et le père de fondement des négociations, à Harvard Business School. Et il parle du Getting Pass No, comment aller au-delà du non. Si tu rentres pas par la porte, et ben essaye de rentrer par la fenêtre. Et je pense que ça, c'est le propre de l'entrepreneuriat.
C'est important, ouais, effectivement.
et de pas s'arrêter à un nom, et puis pas de penser forcément que à ta position, mais aussi de comprendre l'intérêt de ton interlocuteur et de trouver quelque chose qui puisse l'intéresser lui, et de créer ce fameux pont d'or, voilà. Et ce que je pense qui est aussi ultra important, c'est d'avoir ce BATNA. Le BATNA, c'est donc le best alternative to a negotiated agreement. Donc en français, la meilleure alternative à une négociation. Parce qu'au final, c'est quel est ton plan B, en fait, pour être franc. Et d'avoir ce référentiel-là, c'est ultra important de le garder en tête quand t'es dans les négos. Parce qu'au final, les négos, elles peuvent prendre différentes directions. Et à un moment donné, eh bien, quand tu te rends compte que le outcome va être plus bas que ton BATNA, eh bien, ça n'a aucun intérêt de continuer. Et donc, c'est important de garder ce référentiel en tête. Parce que souvent, ben, si on n'a pas de référentiel, on peut aller dans des solutions qui, au final, peuvent te desservir ou moins intéressantes que si tu étais par un autre. Donc,
ouais, exactement. Est-ce que tu as un livre à me conseiller?
Tu as lu Man's Search for Meaning de Viktor Frankl?
Non.
C'est un livre que je recommande à tous mes proches. D'ailleurs, il y en a pas mal qui l'ont acheté. Man's Search for Meaning, donc la recherche du sens par l'homme. Viktor Frankl, donc c'est un neuroscientiste autrichien, qui est dans les années 40, qui était déjà très connu avant la Deuxième Guerre mondiale dans le monde académique, Et comme il était d'origine juive, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui et sa famille étaient déportés à Auschwitz. Et comme il était connu dans le monde académique, il avait obtenu un visa pour fuir l'Autriche et aller dans une université américaine. Mais comme il voulait rester avec sa famille, il a décliné le visa et il est parti à Auschwitz avec sa famille. Il a survécu et il a écrit ce livre avec son expérience d'Auschwitz, mais sous l'œil d'un neuroscientiste. Et c'était très intéressant et très poignant. Ça a été très difficile à lire parce qu'il y a des passages qui sont difficiles, donc j'ai mis beaucoup de temps à le finir. Mais il y avait plusieurs idées dessus. Donc moi, j'en ai reçu quelques-unes, d'autres, pour en retenir d'autres. Mais par exemple, il y avait des exemples très concrets. Il y avait une femme qui disait, voilà, si d'ici décembre, on n'est pas libéré par les Alliés, c'est qu'on nous a oubliés et qu'on va mourir ici. Elle s'était fixée en tête cette date. On était en février, et puis les mois passent. Et puis on arrive en décembre, à la date qu'elle s'est dit, pas de libération. Elle a complètement abandonné, et une semaine plus tard, elle meurt. Donc c'est vraiment l'importance du mental sur toi qui est très poignant. Et il montrait d'autres exemples avec des personnes qui avaient l'air en apparence très robustes physiquement, on pourrait penser qu'ils seraient qui résisteraient le plus, mais qui étaient paradoxalement les premiers à mourir, et qu'à l'inverse, d'autres personnes très frêles physiquement, dont on pourrait penser qu'ils seraient les premiers à partir, eh bien, arrivaient à tenir. Et parce que ceux-là, ils avaient réussi à cultiver une force intérieure très forte et une spiritualité intérieure très forte qui permettait de tenir, et qu'au final, le mental est plus important que le physique et il permet de tenir à toute l'adversité, toute l'atrocité qu'il y a autour de soi. Et cette force, elle vient du sens que tu donnes à ta vie. À partir du moment où tu t'es donné un sens, eh bien, ça peut aller au-dessus de tout. Et ce sens-là, il est très personnel à toi. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus de ça, beaucoup de gens disent « oui, quel est le sens de la vie ?» Ben en fait, c'est très subjectif. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est une force qui peut aller au-delà de toutes les atrocités qu'il peut y avoir. Donc Manson Schwemming a été une très belle découverte littéraire. Ouais.
Je me le note en recommandation, ça m'a donné forcément envie de le lire, et on le mettra aussi en description pour les gens qui potentiellement veulent le lire, parce que effectivement c'est des sujets qui sont importants, et je pense que c'est des questions que tout le monde se pose finalement. Donc merci pour cette recommandation. L'autre question, c'est est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
D'ailleurs c'était il y a 2 mois, non, il y a quelques mois, quand je prenais l'avion de Pékin à Paris. Et bon, quand t'as l'avion,
t'as du temps.
Et c'est là que je regarde le plus de films, en fait. C'est souvent dans l'avion. Et c'est vraiment le moment que t'as pour moi quand t'as les longues distances. Et j'ai vu Babylone et j'ai adoré. J'ai adoré. Le jeu d'acteur est dingue. Le scénario était super. Et puis même, tu te rends pas compte. Enfin, là, il parle un peu de l'ascension du cinéma, de la starification, un petit peu, hein, de la naissance de la starification, et toutes ces stars qui atteignent ce sommet, et donc toute la décadence qui va avec, hein, le sexe, la drogue, etc. Et puis ensuite, comment on appellerait ça, cette chute au final, où les gens qui n'ont pas réussi à prendre le shift et le coche du cinéma muet au cinéma parlant, et comment ça peut détruire la vie de certains, hein, et ça c'était très fort. Bon, spoiler alerte, mais effectivement, et c'était très puissant, et ça c'est assez intéressant, parce que pour c'était extrêmement émouvant, mais et puis on s'attache aux gens. Et la fin est un peu tragique, hein, au final. Et il y a un truc assez intéressant, parce que du coup, je repense un peu à l'entrepreneuriat.
C'est très relié. Hein.
Ah, c'est très relié au final, parce qu'au final, il y a l'évolution du cinéma. Et puis, il y a des acteurs qui ont réussi à se convertir, et puis d'autres qui ne l'ont pas réussi. Et donc,
quand le contexte évolue, si tu ne t'adaptes pas.
Absolument, ce que je disais par rapport à ça. Ouais. Et puis, je crois que c'était d'ailleurs l'ancien CEO, l'ancien fondateur de Twitter qui disait qu'il faut savoir quand tu dois step down, d'avoir cette intelligence-là, de se dire « Ok, là, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'ai fait qui était en pouvoir pour développer la société, mais aujourd'hui, j'ai cette conscience personnelle que quelqu'un d'autre pourrait mieux faire grandir la société que moi. Et donc d'avoir cette cette conscience de partir au bon moment, ça c'est très difficile dans l'entrepreneur, parce que comme on est beaucoup dans l'affect, l'entreprise c'est notre bébé à soi, bien d'avoir ce recul là c'est très difficile. Et je pense pour ça, Babylone le résume bien, et de à quel moment se dire ok, j'arrive pas de faire des films parlés, donc il faut que je step plutôt que de me ridiculiser comme l'avait fait Brad Pitt, et ce qui a conduit à une humiliation publique et qui l'a traumatisé, quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi avoir ce recul de se dire, est-ce que je suis encore la bonne personne pour incarner ce rôle d'acteur, est-ce que je suis encore la bonne personne pour faire développer cette société. Donc c'est très relié, mais ça a été très puissant parce qu'il y avait un jeu d'acteur qui était très fort, et on s'attache très vite au personnage, ouais. Et c'était très tragique, mais ça rejoint tellement, tellement ça, ouais.
Ça, tu vois, sur le fait de partir au bon moment, on en a discuté avec Eric Larchevêque de Ledger,
oui,
il y a quelques semaines, où effectivement, lui, il a quitté ses fonctions opérationnelles et son poste de CEO en 2019 chez Ledger, parce que effectivement, à ce moment-là, il s'est dit, je ne suis plus la bonne personne en tant que CEO de Ledger, parce que Ledger prend des dimensions différente de potentiellement ce que lui aurait voulu. Mmh. Et effectivement, ça a été très difficile pour lui parce qu'il il a dû quitter son poste de CEO. Il a dû nommer le CEO à sa place.
Moi, tu dis juste, c'était contraint.
Comment ?
C'était contraint.
Bah, c'est-à-dire que forcément, c'est lui qui a pris la décision de quitter son poste de CEO. Mais il y a toujours un passement au cœur. C'est ton bébé, c'est ta société. C'est lui qui l'a créé. Même si c'est ta propre décision, t'as quand même, tu vois, t'as quand même de l'émotion, t'as quand même. Donc, il a raconté tout ça sur un podcast. Et effectivement, c'est très, ça relie ce que tu as dit, quoi.
Absolument. Ouais.
Il nous reste 4 petites questions.
Ouais.
y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée?
Je me rends compte qu'au début du podcast, j'ai beaucoup parlé de mon père parce que comme en plus là on a ce projet où j'écris un livre avec lui, donc il fait beaucoup partie de mes pensées. Mais j'ai oublié de parler de ma maman, qui est pour moi, qui est très importante pour moi et qui fait partie de moi, et aussi la raison pour laquelle j'ai ce tempérament, cet esprit combatif, je l'ai aussi hérité de ma mère. Ma mère, elle était parachutiste militaire quand elle avait 15 ans, et elle est vraiment une force incroyable pour moi et pour la famille. Mon père, lui, quand il était écrivain, c'était un écrivain qui écrivait sans publier. Donc, c'était ma mère qui financièrement s'occupait des 3 enfants et du mari. Donc, ça a été très difficile pour elle aussi dans un pays où elle parlait pas le français au départ. Donc, elle a eu des phases très difficiles. Et même si aujourd'hui, on est dans une vie confortable, j'oublierai jamais les débuts qu'elle a eu en France et mon enfance, qui était extrêmement modeste. Et on n'en serait pas aujourd'hui si on n'avait pas eu la force de maman qui était là, qui à nous soutenir. Moi, je parle beaucoup, désolée, de mon père et de ma mère, mais c'est quand même très important pour moi, et je pense que ça fait partie de nous au final, de notre enseignement. Il y a un philosophe assez important dans le 19e siècle qui avait expliqué, qui disait qu'au final, le fait de réduire, le fait de parler, de dire qu'on était le fruit de l'évolution naturelle du darwinisme, c'était extrêmement réducteur au final. Il y a ce qu'on appelle un capital force qui s'accumule au fil des générations, et que nous sommes le fruit de ces victoires, de ces combats, mais aussi des défaites, des frustrations, des désillusions de nos parents et de nos grands-parents, et c'est ce capital force qui se transmet de génération en génération. Et quand on voit quelqu'un qui, on se dit waouh, il a une force incroyable, qui est presque tombée du ciel, eh bien il répond non, mais mes ancêtres ont payé pour ce que je suis. Et ça, j'ai trouvé
c'est
ça
beau.
Très beau quand j'ai lu ça.
Très beau, hein.
Et je le ressens vraiment. Mes parents ont payé pour ce que je suis, nos grands-parents ont payé pour ça, et ça, ce capital force, il se transmet de génération en génération. Et je pense aujourd'hui même, on a la, je pense, aujourd'hui, nous sommes privilégiés, hein, toi comme moi, on a la chance de vivre ici, dans un état où on a accès à l'éducation, ce qui n'est, et donc on, d'avoir accès à la culture, de développer notre intelligence, on est des gens intelligents, et ça, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas, ça n'a pas été gratuit, nos parents ont payé pour ça, nos grands-parents ont payé pour ça, et je pense, comme c'est pas donné à tout le monde, c'est limite presque un devoir d'en faire quelque chose. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens.
Ouais, je suis complètement aligné. C'est très beau ce que tu as dit et c'est très, très pertinent. Je pense que c'est un bon complément, tu vois, avec tout ce qu'on s'est dit avant, finalement.
Oui, oui.
il nous reste trois petites questions, dont une question reverse, où là, c'est toi qui prends le rôle de l'intervieweur pour une seule question. Justement, y a-t-il une question que tu aimerais me poser sur le podcast?
Est-ce que tu es heureux?
Alors, aujourd'hui, je pense que oui. Je pense que oui. Après, je pense que j'ai un état changeant qui peut changer en fonction des jours, etc. Donc, aujourd'hui, je suis heureux, tu vois, je passe une bonne journée. potentiellement, demain, je le serai peut-être moins, tu vois. J'ai moins cette... D'ailleurs, je devrais le travailler, tout ce côté philosophique. et je pense que je vais le travailler. il faut que je parte au Népal. Mais je sais pas si toi, c'est ça.
Commence pas, reverse. Là, c'est toi qui dois répondre.
Et ben pour te répondre, oui, à l'heure actuelle, je suis heureux. Ouais. C'est ça.
Ok. Voilà. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est ça, en fait.
Parce que ce que je fais, ça me plaît. Que ce soit à travers le podcast, à travers l'agence, les gens avec qui je discute aujourd'hui, pareil, ça amène de belles conversations profondes. Donc ça aussi, ça m'intéresse. Donc en fait, globalement, je suis au bon endroit, au bon moment, et c'est pour ça que je suis heureux, tu vois. Je pense.
J'accepte.
J'accepte, c'est bien. Est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneur que tu me conseilles pour un futur épisode?
J'en ai deux en tête que j'aime beaucoup, qui sont des entrepreneurs et des amis. Victor Caro, qui est fondateur de Comet. Je sais pas si tu connais Comet. C'est
ça me dit quelque chose de nom. Ouais.
C'est l'équivalent de WeWork français, mais qui a été un très beau succès entrepreneurial où il réinvente le concept de bureau. C'est un entrepreneur qui s'est vraiment très bien développé et puis quelqu'un de très humain également. Ouais. Et j'ai rencontré récemment Emmanuel Strachnov qui m'a beaucoup plu intellectuellement. C'est le fondateur de Bubble. Une société de tech qui dans le no code qui aide les développeurs à créer
Bubble, okay.
Site c'est voilà
bon, exactement très bien.
Il est basé à New York et il est d'ailleurs marié avec une chinoise, donc on a beaucoup parlé de la Chine puisqu'il a un background où il a beaucoup vécu à Shanghai, donc j'aime beaucoup son côté très international. Il est basé à New York mais il vient souvent à Paris et c'est un super entrepreneur là. Il vient de lever récemment 100 millions je crois
c'est une belle réussite dans
belle
le no code.
Réussite mais pourtant c'est ce qu'il me disait, c'est que il a mis beaucoup beaucoup de temps avant de lever. Donc pendant plusieurs années, ils ont mis du temps à décoller, mais une fois que ça a été décollé, ça a été une belle réussite. Donc je pense que ça pourrait être intéressant même son parcours de l'avoir. Et il est super humainement aussi. C'est vraiment quelqu'un de chouette. Ouais.
Ok, écoute, je note ces deux recommandations. Ma dernière question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer de la valeur à la société, avoir un impact positif, idéalement, pour la société. Et mais après, ça peut être une utilité qui est très forte pour un nombre restreint de personnes. Mais ça peut être aussi une utilité qui est très petite, mais pour un large nombre de personnes. C'est quelqu'un qui va contribuer au progrès de la société. En tout cas, il va toujours chercher l'innovation. De toute façon, dans tous les cas, on est déjà dans un marché qui est très saturé. On a déjà beaucoup d'offres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va trouver sa place et qu'il va proposer quelque chose qui est innovant, ou en tout cas, proposer quelque chose où il y a une demande, donc qui n'est pas répondu.
Merci beaucoup Julie pour cet échange. J'espère que ça t'a plu et j'espère que toi qui nous as regardé voire même écouté ça t'a plu aussi. On mettra tous les liens en description, que ce soit de Anya, de ton LinkedIn, potentiellement des gens qui veulent t'envoyer des messages pour te dire qu'ils ont apprécié cet épisode par exemple. J'espère qu'il y en aura puisque il y en a globalement sur tous les épisodes, donc c'est ça aussi qui est cool avec l'effet du podcast. Et je te souhaite une belle continuation pour la suite de ton aventure.
Merci.
Merci Julie.